Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, nous sommes ravis d'accueillir Sébastien Garnier qui est en charge de la Marketplace chez Comexposium. Bonjour Sébastien.
Bonjour Alexis.
On est ravis de t'accueillir pour ce podcast. En quelques mots, comment t'es arrivé à ce projet Marketplace chez Comexposium?
D'une manière assez simple en fait, d'un poste de directeur de la communication de salon, j'ai migré vers le marketing de l'offre et en travaillant sur les offres qu'on peut proposer à nos clients, qu'ils soient visiteurs ou exposants, on a réfléchi à une offre ultime et l'offre ultime c'est cette Marketplace. Pour faire tourner une marketplace, il faut des vendeurs et des acheteurs. Mmh. Mais il s'avère que les vendeurs chez nous sont des exposants et les acheteurs des visiteurs.
Bon, bah, vous avez été donc pris la vague de digitalisation au bon moment. Alors, en quelques mots pour les auditeurs qui connaissent un petit peu moins Comexposium, donc c'est un organisateur de salons. Donc il y a un certain nombre de verticales, mais si tu peux en redire un peu la spécificité de ce groupe.
Alors, le groupe Comexposium est le groupe numéro 1 en France sur l'organisation des salons et des événements. On est numéro 3 mondial. On organise effectivement des salons sur une quinzaine de verticales différentes, avec des verticales très fortes, comme le food, la fashion, la foire de Paris, par exemple, sur des événements B2C, beaucoup d'événements B2B, beaucoup d'événements aussi sur des formats qu'on appelle les one-to-one. Mmh. Et on organise effectivement la totalité de ces événements, depuis la vente, je dirais, des surfaces aux exposants, jusqu'à la venue des visiteurs et tout ce qui se passe après et avant.
Oui, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que je crois que tu avais bossé avant aussi dans le théâtre, tu as été dans la
Exactement.
Donc tu as toujours un peu baigné aussi dans l'événementiel.
Toujours.
Et c'est vrai que l'événementiel, finalement, doit se réinventer de manière très forte là, avec ces événements, évidemment, des deux dernières années. Peut-être parler donc de cette marketplace, finalement, quelle innovation tu trouves ça amène dans ce marché de l'événementiel où avant, on se disait que c'était que du physique, quoi. Maintenant, le...
En fait, c'est vrai que le Covid a accéléré les choses. Ce type de projet était des projets qui étaient déjà présents dans le groupe. La digitalisation, elle existe chez Comexposium depuis de nombreuses années. Le parcours d'un exposant chez nous, il est déjà full digital, c'est-à-dire qu'il y a toujours des interactions, attention, avec des salariés chez Comexposium, mais l'exposant qui connaît le système peut se débrouiller tout seul et avoir finalement tout en full digital. Toutes ces plateformes sont déjà en full web. L'étape ultime, c'était vraiment ce projet de marketplace qui vient compléter une offre qu'on souhaite omnicanal vis-à-vis de nos clients, qu'ils soient visiteurs ou exposants. Chez Comexposium, on ne croit pas forcément au salon full digital. Mmh. Par contre, on croit à la relation toute l'année. Mmh. À mon sens et mon point de vue, c'est que les organisateurs d'événements étaient souvent vus comme des vendeurs de mètres carrés. Mmh. Aujourd'hui, notre métier, c'est vraiment d'animer des communautés et d'organiser ce qui se passe sur ces marchés. Une communauté, elle s'anime toute l'année, elle ne s'anime pas qu'au moment du salon, elle ne s'anime pas que juste avant le salon et juste après. Et pour pouvoir animer ces communautés toute l'année, on a un certain nombre d'outils à nos dispositions. Alors, je ne vais pas vous parler des réseaux sociaux, vous connaissez très bien, mais d'ailleurs, qu'ils soient digitaux ou non digitaux. Mais on a du coup ce projet qui était là et qu'on a effectivement accéléré avec le Covid, puisque ne pouvant pas se réunir physiquement, il fallait trouver cet outil qui nous permette de continuer à générer du business.
Donc c'est vraiment une nouvelle start-up au sein du groupe, tu nous le disais off-camera et off-micro. Sur l'aspect justement marketplace, donc il y a, tu le disais, les exposants, il y a les acheteurs finalement finaux, ils se retrouvent sur la plateforme. Ça veut dire qu'il y a des produits, j'imagine, on fait revivre un petit peu le salon à ces personnes, ou est-ce que tu rends possible le business entre ces acheteurs et ces vendeurs et il y a des services aussi qui sont proposés. Est-ce que tu peux parler un peu des enjeux?
Alors, les enjeux, ils sont assez simples. Cette marketplace, donc, qui est une marketplace B2B, je B2B, le précise parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé auparavant. Des marketplaces B2C, on en connaît tous, Amazon, la Fnac, etc. Y a des marketplaces C2C, Vinted, Le Bon Coin. Et là, on est vraiment sur une marketplace B2B. Donc, on est vraiment dans l'accompagnement de nos clients, visiteurs et exposants professionnels. Cette marketplace, elle est, et je le précise également, sur trois verticales, food, fashion et sport, qui sont des verticales qui se complètent. C'est-à-dire qu'un acheteur, aujourd'hui, ne va pas toujours acheter que des produits de sa verticale. Il peut être intéressé par aller, je dirais, piocher à droite à gauche. Je vais prendre l'exemple d'un d'un concept store, concept qu'on voit de plus en plus dans les grandes villes. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un magasin de fringues ou un magasin d'épicerie ou un magasin de vente de vin. Vous allez avoir un magasin bio. Mm-hmm. Et dans ce magasin bio, vous allez vendre des fringues, vous allez vendre du vin, vous allez vendre de l'épicerie, vous allez vendre tout un tas de services. Mmh. Et du coup, on est aussi pour ces gens-là, ce type d'acheteurs qu'on voit de plus en plus. Donc la marketplace, elle est vraiment sur ces trois verticales. Mmh. Elle va évidemment servir nos clients, mais pas que. C'est-à-dire que dans une logique d'omnicanalité, on lance un cercle vertueux. On a des exposants qui sont présents physiquement avec nous, qu'on va emmener sur ce canal digital. Mmh. Ce canal digital, il est aujourd'hui européen, puisque la marketplace a une vocation européenne, mais elle a surtout vocation assez rapidement à s'ouvrir à l'international. Donc, elle peut permettre à un exposant du Cial Paris, par exemple, un gros salon agroalimentaire qui est chez nous, qui va se tenir en octobre, de tester la marketplace, d'aller peut-être toucher des acheteurs hors Europe, mmh. et de se dire j'ai un business à faire au Canada. Il s'avère qu'on a un Cial Canada, du coup je vais peut-être prendre un stand au Cial Canada parce que j'ai déjà commencé à nouer des contacts avec des acheteurs digitaux.
Si on prend un exemple, c'est par exemple un producteur, on va prendre d'agroalimentaire, mm-hmm. céréales, qui vend un distributeur puisqu'on est en B2B, ça va être ça un peu le marché. Mais ça veut dire que vous pouvez vous positionner côté commission sur le business ou c'est plus une plateforme d'interaction?
Alors,
et de communauté?
Alors en fait, la marketplace, enfin une marketplace, elle a deux tendances, soit elle est relationnelle, soit elle est transactionnelle. Mm-hmm. Si elle est transactionnelle, elle est de toute façon relationnelle quoi qu'il arrive. Nous, on est sur une plateforme qui sera transactionnelle, avec un business model qui est assez simple, hein, c'est qu'on a un abonnement, mmh. et on a une volonté de ne pas prendre de commission, donc on a 0% de commission. On a par contre évidemment 4% de frais de gestion, ce qui correspond à tous les frais bancaires, etc., qui de toute façon sont facturés et qu'on est obligé de rebalancer. D'accord. Du coup, on est sur un abonnement, je vais vous donner le tarif.
Plutôt annuel du coup?
Alors pas du tout.
Pas du tout.
Parce que comme on croit dans notre projet, on est sur un abonnement mensuel et sans engagement.
Ah, c'est bien ça. Donc les gens ont la liberté de reconduire.
Exactement.
Oui,
et
y a
c'est
pas
une
le
vraie
côté,
volonté du groupe.
Pas le côté enfermant parfois.
Exactement.
Des abonnements.
Tout à fait. Il y a une offre annuelle qui existe pour ceux qui le souhaitent, mais on est au départ sur une offre mensuelle à 350 € par mois, qui descend à 99 € par mois si vous êtes une start-up, donc une société qui a moins de 3 ans d'existence. Et vous pouvez tout à fait vous abonner pour un mois, deux mois, trois mois. Par exemple, si vous êtes sur un salon, déjà en plus en tant qu'exposant du groupe comme Exposium, on vous fait un mois de gratuité supplémentaire. Un salon, je vais prendre comme le Cial, qui a lieu le 14 octobre. Vous pouvez tout à fait dire, je vais tester la plateforme le mois d'avant pour commencer à générer du contact, générer des leads. Je vais les rencontrer sur le salon. Donc, vous allez prendre un abonnement le mois du salon. Mmh. Et vous allez prendre un abonnement le mois d'après. Du coup, vous allez vous abonner 3 mois.
Oui, c'est pas mal. Hein.
Comme vous avez un mois gratuit, vous allez en payer que 2. Si vous faites du business et que vous êtes convaincu, vous resterez abonné. Vous pourrez vous arrêter quand vous voulez. Et puis, vous pourrez vous abonner 3 mois, 6 mois, 9 mois, peu importe. Mmh. Mais en tout cas, vous avez cette liberté.
Non, c'est bien,
et c'est important pour nous d'avoir cette liberté parce qu'en fait, on est tellement dans notre outil omnicanal et il faut prendre en compte la force du groupe comme Exposium. Le Cial, c'est 300 000 professionnels de l'agroalimentaire. Donc, c'est une base potentielle d'acheteurs qui n'est pas infinie, mais qui est très, très large. Et du coup, pour tout un tas de petites marques, ça peut être vraiment une source de business relativement importante.
En tout cas, quand tu dis ça, ça paraît bien parce que vous êtes de ne pas aller justement sur l'aspect commission, c'est-à-dire que vous laissez les gens faire leur business et quelque part, c'est le business des salons puisque les gens sont libres aussi de faire leur
exactement,
métier.
Exactement, c'est ça.
Et en même temps, ça t'amène un service en plus sur lequel d'ailleurs parfois il y avait un peu déjà l'utilité sur les salons parce que souvent tu avais les applis un peu de networking ou de speed meeting ou des choses comme ça.
Tout à fait, très bonne remarque.
D'ailleurs, ouais. Ils le prenaient ou pas cette appli ou ça n'a jamais trop été pris quand les gens... Souvent, je me suis fait la remarque qu'on y avait accès quand je faisais des salons, mais c'était pas
en
forcément
fait,
les gens...
Il faut être réaliste.
Ils n'ont pas le temps en plus pour...
Alors,
le moment
c'est compliqué, on est d'accord. Mmh. Souvent, les internationaux le font parce qu'ils essayent de maximiser leur temps de présence.
Ils
sur
préparent
le salon.
Super bien.
Exactement, et on les accompagne pour ça. C'est aussi un service qu'on leur propose. Le vrai matchmaking n'existe pas réellement. C'est-à-dire que... vous savez, ce parallèle de... Je vais faire un parallèle avec des applis comme Tinder, parce que finalement, le matchmaking, c'est aussi ça. Je sais pas, j'aime les femmes brunes, sauf que toutes les femmes brunes que je vais swapper en positif, par exemple, elles vont avoir les cheveux courts. Du coup, l'application va retenir que je ne sélectionne que des femmes à cheveux courts et va donc me proposer que des cheveux courts. Bon, ça n'existe pas. Du coup, si vous voulez, le matchmaking professionnel de se dire qu'on va me proposer que des acheteurs ou des vendeurs qui correspondent exactement à ce que je recherche, c'est toujours parce que l'acheteur a rentré des critères, que le vendeur a rentré des critères et on croise ces critères. Donc, on est plutôt sur du networking que sur du vrai matchmaking.
Oui, voilà.
Et du coup, si vous voulez, sur la plateforme, comme vous avez un acheteur qui va rentrer un certain nombre d'informations qu'on valide et qu'on vérifie, et que le vendeur va lui aussi rentrer un certain nombre d'informations qu'on valide et qu'on vérifie, et ben en fait, on croise ces informations. Et donc, au moment du salon, on ouvre effectivement une partie de networking qui va permettre à un acheteur de voir la totalité des vendeurs inscrits sur la marketplace et présents sur le salon physique, et à tous les vendeurs présents sur le salon physique, de voir quels sont les acheteurs qui vont venir sur le salon.
C'est intéressant.
Et ça permet de maximiser en tout cas le business, parce que vous allez, on se rencontre sur la plateforme, vous êtes en train de chercher des cacahuètes, et bah, vous allez aller sur la plateforme, vous allez, dire, bah, vous allez voir plein de vendeurs de cacahuètes, et vous allez dire, bah, tiens, sur les 7-8 vendeurs de cacahuètes que j'ai retenus, bah, il y en a 5 qui sont sur le Cial. Bon, bah, du coup, je vais prendre mon badge, je vais aller sur le Cial, et en plus, je vais commencer à prendre des rendez-vous, on va commencer à échanger. Et bah, du coup, quand vous arrivez sur le Cial, en une demi-journée, une journée, vous allez voir vos 5 vendeurs de cacahuètes. Vous allez en plus les matcher sur la plateforme, ils vont vous envoyer un devis. Et en plus, en rentrant le soir, vous aurez pu à vous dire « Ah, mais alors la société, c'est lui qui m'a fait telle offre, comment ça ?» Vous savez, on a tous ces petits cahiers où on agrafe les cartes de visite, on a beau être digitaux. Il faut savoir que sur les salons, ça marche encore comme ça. Et c'est ce côté artisanal qui nous plaît aussi. Mais du coup, sur la plateforme, vous aurez tout. Vous saurez quelle entreprise, son offre de prix, etc. Et vous aurez plus qu'à valider ou pas cette demande.
Le business, il se fait encore beaucoup en physique. Tu penses même après le Covid où c'est un peu rééquilibré, il y a quand même pas mal de business à distance.
Alors en fait, les deux, ouais, les cependant, deux. Encore une fois, l'intérêt de cette marketplace, c'est qu'elle est food, fashion, sport. Elle est sur des univers où les gens se rencontrent dans la food. Et je ne veux pas dire ça parce qu'on est en France, mais finalement, on est le pays de la bouffe. Je ne vois pas quelqu'un acheter 2 tonnes de cacahuètes ou 3 tonnes de rillettes ou je ne sais quel produit alimentaire sans l'avoir goûté auparavant. Pareil sur la partie fashion. Oui, je veux dire, avant d'acheter des fringues, on touche la matière. Oui.
On n'est pas encore au métavers, c'est à la 3D généralisée.
Voilà, je veux dire, on est sur... Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'outils omnicanal. C'est qu'on est vraiment sur une complémentarité entre le physique et le digital.
Ok. Il y a aussi des services, j'imagine, en plus. Ça peut être un peu d'infos, d'abonnements, de contenu additionnel, j'imagine, de goodies, comme on dirait.
Alors, effectivement, il y a... C'est finalement la continuité logique, c'est que c'est pas juste une marketplace,
oui.
C'est que c'est la marketplace d'un groupe qui organise des événements, qui produit déjà du contenu sur ces trois verticales.
Donc il peut devenir média, c'est un peu la Exactement. Suite de l'histoire.
Pendant très longtemps, enfin, on a toujours parlé un peu des salons comme d'un média finalement, même si ce n'était pas le cas, parce que dans la notion de média, il y a la notion de production de contenu, bah c'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs. Les salons aujourd'hui, dans cette logique d'animation de communauté, elles produisent du contenu. Alors, elles le produisent elles-mêmes, on l'achète, on a tout un tas de partenaires, d'acteurs, de spécialistes, de speakers, mais en tout cas, on propose du contenu à nos communautés. Donc, il est naturel que finalement, cette marketplace... soit beaucoup plus que juste une marketplace. Et on utilise, nous, un terme qui n'est pas forcément joyeux, mais qui s'appelle plutôt une market plateforme, parce qu'effectivement, on n'est pas juste une place de marché, il y a beaucoup plus que ça.
Là où alors, ça fait une bonne transition avec la dernière partie du podcast, c'est sur l'aspect contenu. Parce que moi, j'ai fait aussi le constat que tu as dit un peu d'ailleurs au début de ton intervention, c'est qu'il y a un enjeu aussi de fidéliser, de pérenniser la relation au public, qui peut être possible grâce à un nouvel outil comme ça, alors que l'événementiel, par nature, souvent, il peut avoir un côté ponctuel, ce qui peut être un peu, pas déceptif, mais pour des... de perdre le fil avec certains publics. Sur les contenus, qu'est-ce qui, toi, tu trouves marquant aujourd'hui en 2022 sur, ça peut être le storytelling, ça peut être les formats que tu trouves intéressants pour animer ces communautés, ça peut être l'influence digitale aussi et le social media, voilà, peut-être les lives aussi, parce qu'il y a les lives qui deviennent de plus en plus importants aussi.
En fait, pour moi, il y a beaucoup de choses, tout se mélange et il faut faire le tri. Je pense qu'on a eu pendant 2 ans, et en tout cas pendant le premier confinement, par essence, on était chez nous, donc on n'avait rien d'autre à faire que d'être derrière un écran, non pas à consommer, mais à surconsommer du digital. Cette surconsommation, elle se termine petit à petit, comme il y a même encore du télétravail. Du coup, je pense qu'il y a une balance qui est en train de se rééquilibrer. Dans cette balance, ce que moi je retiens, c'est le live, vraiment, pour moi c'est un vrai plus. Des lives courts. Pendant le confinement, il y a des salons, il y a des organisateurs de salons, petits, moyens, gros, contentés de faire des choses sur 2-3 jours. Mmh. Et on avait le temps pendant 2-3 jours de rester derrière un écran à visiter des stands virtuels, etc., à prendre des rendez-vous virtuels, à assister à 3 heures de webinar. Moi, personnellement, 3 heures derrière un écran pour regarder quelqu'un parler, ça s'appelle un film, c'est plus un webinar.
Donc il y a peut-être un problème de format aussi, parce que 3 heures, est-ce qu'il manque pas, il ne faut pas inventer peut-être le visio live entertainment?
Oui, bien sûr. Le 3 heures, il était pendant le le Covid. Aujourd'hui, oui. Je pense que plus personne ne le propose. Enfin, j'espère. Oui. Par contre, moi, je trouve que le live, le rendez-vous live de, sur un format de peut-être 30 minutes, vraiment un truc impactant sur une thématique forte, ça a du sens. Et on ne va pas chercher à réunir 100 000 personnes. On va réunir 30, 40, 50 personnes, mais qui sont des personnes intéressées par la dynamique.
Et qui en sortent un peu grandi, une petite masterclass.
Exactement. Et le terme de masterclass, c'est intéressant parce que finalement, ça se fait déjà physiquement. L'avantage du digital, c'est qu'il va permettre de réunir des gens qui ne sont peut-être pas dans la même ville et qui ne sont peut-être pas dans la même unité de lieu, mais qui vont pouvoir être disponibles sur la même unité de temps. Et finalement, la marketplace, c'est ça aussi. C'est permettre sur une unité de lieu digital de réunir des personnes qui vont être disponibles à des unités de temps différentes, mais qui vont se retrouver autour de ce produit qu'ils recherchent tous. Et du coup, le live, moi, c'est quelque chose qu'évidemment je retiens. Je retiens les réseaux sociaux parce que je suis né avec, même si aujourd'hui il y a à boire et à manger. Et j'aime beaucoup LinkedIn, typiquement aujourd'hui LinkedIn, pour moi, à base de lolcat toute la journée, ça devient très compliqué. C'est devenu de moins en moins un réseau professionnel.
C'est trop devenu Facebook.
Mais la génération bouge, c'est-à-dire que les jeunes n'utilisent plus Facebook. Aujourd'hui, ceux qui utilisaient Facebook sont sur LinkedIn. Et puis, on glissera sur autre chose. Il y a peut-être le concurrent de LinkedIn, le français dont on n'entend plus parler. Comment il s'appelle déjà ? Qui avait ce logo orange. Flûte. C'est pas copain d'avant, mais c'était le bref. On retrouvera. Va peut-être faire un retour. Mais le fait est que je pense que les réseaux sociaux nous permettent, encore une fois, de garder du lien. Nous permettre d'animer des communautés, mais il ne faut pas que ça soit une fin en soi. Typiquement sur du B2B, même s'il y a des marchés où c'est on peut y aller, TikTok, bon, ça se discute. LinkedIn, pour moi, c'était une évidence. Aujourd'hui, je fais la différence entre mes clients acheteurs et mes clients vendeurs. Il faut trouver de l'utilité à chaque chose. Maintenant, tout ça doit toujours s'inscrire dans une stratégie plus globale et générale, ce qui est malheureusement pas toujours le cas.
Les webinars, tu penses, c'est une tendance lourde ? Ça peut se réinventer, ce format, ou c'est compliqué, tu penses, toi ?
Le webinar, pour moi, alors, une tendance, je ne sais pas. C'est un format qui doit se réinventer, clairement.
Oui, voilà, se réinventer.
Parce que, encore une fois, pendant le Covid, c'était à celui qui fait le webinar avec le plus de monde. Il n'y avait pas d'interaction, c'est-à-dire qu'on avait quelqu'un qui parlait, il y avait des gens qui étaient présents, on avait coupé leur micro, vous pouviez.
L'expérience n'était pas ultra sympa, quoi.
Non, mais après, attention, on a testé des choses. C'est ça qui est intéressant. Ce qu'il en ressort aujourd'hui, c'est que. Et c'est un petit peu ce que j'explique à mes équipes, c'est que. Quand on va sur un réseau social, il faut accepter que c'est pas nous qui maîtrisons la chose. Quand on lance un webinar, il faut accepter que, de la même manière que quand on est dans une salle en réel, il peut y avoir quelqu'un qui prend la parole à n'importe quel moment pour poser une question qui sera peut-être gênante. Mais en tout cas, la personne, elle est venue et il y a une vraie interaction. Le problème des webinars aujourd'hui, c'est qu'on a trop tendance à couper la parole à ceux qui sont dans la salle. Et du coup, on est plus dans une sorte de monologue. Moi, ce que je trouve intéressant dans la production de contenu aujourd'hui, c'est l'échange.
Ah oui.
Et pour moi, c'est ça qui est important.
Oui, c'est ça qui est difficile avec les formats visio, parce que quand on parle des webinars, c'est Google Meet, c'est Teams, on est quand même tributaire de plateformes qui organisent les choses d'une certaine manière.
Oui, mais on peut laisser les micros des intervenants et des participants ouverts.
Oui,
c'est une question de paramétrage. Pour cela, il ne faut juste pas organiser un Google Meet à 300 personnes.
Vrai sujet, moi, je trouve, sur aussi tout ce qui est contenu lié aux interventions. Je trouve qu'on est encore au degré, il n'y a pas encore de vraie maturité sur quand on présente, voilà, ça peut être un petit motion design, ça peut être une petite vidéo qui accompagne, de rendre le truc un peu dynamique, en fait. Je trouve que ça, ce n'est pas encore craqué, quoi.
C'est la même chose entre une conférence de base et un TEDx. Enfin, je veux dire, sur un format TEDx,
faut de la prod, quoi.
Le speaker, il s'est entraîné, il a des diapos qui sont sympathiques, il n'est pas en train de lire ce qu'il a écrit sur un slide, qu'il a appris par cœur. Enfin,
c'est storytelling, on en revient toujours au contenu. Exactement. Entre le speaker, son contenu, comment c'est raconté et comment c'est retranscrit. Mais sans doute des nouveaux formats, en tout cas, qui vont sans doute pas mal se développer dans les années à venir sur ces sujets-là, je pense.
Ah bah oui, c'est déjà le cas. Et c'est vrai que le mot de storytelling, il est intéressant parce que finalement, même dans les réseaux sociaux, ce qui fonctionne, c'est ça. Enfin, je veux dire, si on va que dans un sens et qu'on parle que de soi, ça ne fonctionne jamais. Ce que les gens veulent, c'est lire des histoires. Ils veulent qu'on leur raconte des histoires. Et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on fait tous les jours. Ça s'appelle de la communication, du marketing. Après, là où il faut être intelligent, et c'est ce qui est intéressant, moi, je trouve, aujourd'hui, c'est que on avait du storytelling qui était inventé il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, le storytelling ne peut plus être inventé. Le storytelling, il doit être réel. Pourquoi ? Parce que vos clients, ils ont les mêmes outils que vous pour aller creuser la vérité. Mmh. Donc, si vous racontez une histoire qui n'est pas la bonne, ou si vous essayez de faire un peu de greenwashing, ou si vous essayez tout simplement de vouloir emmener les gens à droite, alors qu'en fait, tout le monde sait très bien que vous êtes en train de partir à gauche, ça ne fonctionnera pas. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui.
Alors, on arrive toute dernière question, Sébastien, sur tes goûts en matière d'entertainment, donc ciné, série, lecture, gaming, voilà. C'est plus toi en tant que personne, que spectateur. Qu'est-ce qui te touche ou des œuvres qui t'ont marqué ou...
Alors, plusieurs choses. Gaming, plus du tout. Jeune papa, donc plus le temps. Voilà, donc voilà, un peu de Worms. Alors ça parlera peut-être à certains. Un petit jeu avec des vers de terre qui se déplacent, voilà, sur mon téléphone de temps en temps. Une espèce de truc de l'adolescence. En termes de bouquins, j'ai pris un peu de temps, mais fini le bouquin d'Obama qui est très intéressant. J'ai vu qu'il a été bien feuilleté. Donc ouais. c'est pas une bible, mais c'est vraiment intéressant.
Qu'est-ce qui t'a marqué d'ailleurs dans son histoire finalement
C'est la globalité du personnage et d'ailleurs j'avais déjà vu un film
sur la rencontre avec Michel. T'avais vu le couple
quoi. Ouais, l'histoire est belle, oui.
Et la profondeur, l'ampleur du père de cet homme quoi.
Exactement,
c'est vrai que c'est un leader très marquant quoi,
naturel. C'est ça que je trouve assez intéressant. Après je vais passer d'un leader à l'autre, ça peut paraître assez bizarre, mais j'ai trouvé très intéressant un livre que j'ai fini il y a peu de temps, c'est la biographie de Phil Jackson, qui est l'ancien coach des Bulls de Chicago et donc des Lakers de Los Angeles. Ouais. Et il explique comment, un peu en fait à l'instar d'un manager d'une grande entreprise, il arrive à faire travailler des sportifs de très haut niveau avec des égos qui sont démesurés.
Oui. Tu as vu donc le docu sur Netflix qui est le prolongement de ce que tu racontes.
J'allais y venir justement dans la partie série.
J'ai anticipé, effectivement, puisque c'est le même contenu.
Je trouvais que la série était très bien faite. Bon, on apprend des trucs, mais rien de secret. Oui. Et dans cette ligne de séries sportives, je suis devenu un peu addict à la Formule 1, notamment avec la série Netflix Formula 1, que je trouve très bien faite, parce que on parlait de storytelling tout à l'heure, elle nous montre finalement ce qui se passe dans les paddocks et ce qui se passe avant et après la course. La course reste le spectacle, mais il y a surtout beaucoup de choses qui se déroulent derrière, et j'ai trouvé ça très 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 intéressant.
Pour revenir sur le documentaire, juste fait la partie sur le documentaire sur les Bulls, t'as été plus marqué par le personnage de Phil Jackson ou de Jordan ?
Alors, le personnage de Phil Jackson, finalement, je ne sais pas s'il m'a plus marqué, mais je l'ai trouvé intéressant parce que on apprend des choses. Mm-hmm. Sur Jordan, on n'a rien appris. Enfin, moi qui... Voilà, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis assez tôt, je me suis toujours intéressé à l'NBA, etc.
J'ai appris juste la mue qu'il a fait lui quand il était finalement au début très individualiste, ouais. Et qu'il a un moment donné, alors est-ce que c'est Phil Jackson qui l'a fait bouger ?
Il en parle dans le bouquin, effectivement. C'est un travail qu'ils ont fait à plusieurs.
D'accord. Tu penses que ça a été facile ou ils ont,
il y a eu non, non, ça a été compliqué.
Oui, il y a eu des affrontements. Ça a été très compliqué. C'est des très grosses personnalités. Non, mais quoi.
Évidemment, on est sur un joueur qui est finalement The GOAT, en tout cas pour beaucoup. Le mec est monté et le mec est doué. Donc, il a un ego qui est surdimensionné, sauf qu'il a de l'or dans les mains. Donc, compliqué de mettre quelqu'un en face. Il y a eu de très bons joueurs en face, attention, mais il les a toujours surpassés.
Pippen et tout ça.
Alors, Pippen était un bon joueur, il n'a jamais été de la classe de Jordan. Par contre, quand vous regardez tous les membres de la Dream Team, alors je suis désolé, c'est très basket tout ça, mais quand vous regardez tous les membres de la Dream Team.
C'est sur les échos avec le monde de l'entreprise.
Les Magic Johnson, le etc. Là, on était sur des choses intéressantes. Il n'y a personne qui était à son niveau. Et c'est une époque où finalement. Et c'est intéressant cette transition effectivement avec le monde de l'entreprise, c'est que quand Phil Jackson est parti des Bulls pour aller aux Lakers avec tous ces nouveaux challenges, et d'ailleurs qui leur a fait gagner les titres, on est arrivé à un moment où il n'y avait plus une vedette dans une équipe. C'est-à-dire qu'aux Bulls, il y avait pendant très longtemps Jordan, après il y a eu Jordan et Pippen, Rodman, après il y a eu Kukoc, il y a eu tout un tas de joueurs qui sont arrivés. Mais c'est vrai qu'avant, dans cette génération 80-90, il y avait deux joueurs vedettes par équipe. Aujourd'hui, le 5 de départ, c'est déjà tous des vedettes. C'est quasiment une équipe olympique à elle toute seule.
Mais c'est même vrai en foot d'ailleurs. C'est un peu,
mais bien sûr,
c'est,
évidemment.
C'est souvent un petit peu le problème parfois.
Le terrain, ou le PSG, moi je suis beaucoup moins foot que basket, mais effectivement, je pense que si on faisait la somme de tous les salaires, et c'est pas une critique, mais de tous les salaires de tous les super joueurs du PSG, radieux. Enfin voilà, Neymar, Mbappé, etc. J'ai l'impression qu'on parle du transfert hypothétique d'Mbappé depuis des mois. C'est lunaire, il partira pas. On l'a vu à Madrid, il achète une maison, il achète pas.
Finalement, ce qui est intéressant, c'est les grandes équipes qui soudent les joueurs. Et ça, c'est pas que des histoires de
sous. Et ça, c'est les coachs, finalement.
Et c'est ce qu'on sentait avec les Bulls, qui était une équipe où il y avait une âme derrière. Quoi. Il y avait
et ce parallèle entre le sport et le monde de l'entreprise, moi, je le trouve hyper intéressant.
C'est retrouver une âme, je pense, des entreprises. Les âmes, de retrouver la raison d'être. J'ai relu la petite citation hier, que beaucoup d'entreprises matures meurent parce qu'elles ont oublié pourquoi elles sont nées. J'aime bien cette
Peut-être.
Citation.
Peut-être, effectivement, la citation est très belle. Et ce qui est intéressant, et ça fait aussi, je reboucle avec le storytelling, c'est que les jeunes générations, enfin moi j'ai cette chance de donner des cours dans des écoles de commerce, et j'essaie d'embaucher un maximum de jeunes, ils ne vont plus dans les entreprises pour les mêmes raisons pour les raisons qui ont pu être les miennes il y a 30 ans en arrière.
Une quête de sens beaucoup plus forte.
Exactement,
aujourd'hui.
Et ça c'est hyper intéressant. Mmh. Et j'en reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas en fait bullshiter un jeune parce qu'il va aller creuser l'information. Mmh. Et si vous lui faites un truc sur votre entreprise, il va dire c'est génial. Et en fait, il va creuser, il va se dire non, vous me faites un pont d'or, c'est super, mais je ne vais pas aller là. Moi, ce que je veux, c'est travailler moins, par contre, travailler bien et travailler pour quelque chose qui a du sens.
Et aimer ce que je fais et que ça ait du sens pour moi.
Tout à fait.
Le conseil que tu donnerais justement à un ou une jeune qui se lance dans ton métier, alors ça peut être soit marketplace, soit dans le monde de l'événementiel que tu as bien connu.
La curiosité, ça c'est le premier point vraiment essentiel. Alors je parle pas d'avoir une culture confiture, mais il faut s'intéresser à beaucoup de sujets différents. L'événementiel, c'est un sujet qui est très très vague. Donc vraiment la curiosité, la remise en question, très important pour moi, et je pense très important pour les jeunes qui arrivent, c'est cette capacité qu'ils doivent avoir à écouter leurs aînés et à se dire ok, je fonce blanc, mais finalement c'est peut-être noir et je vais peut-être trouver un gris entre les deux. Et pour moi, c'est vraiment les deux qualités, les deux choses à creuser. Après, la marketplace aujourd'hui est digitale. Mais il ne faut pas être un expert du digital pour se lancer sur ce genre de business parce qu'encore une fois, on vient mettre un nouveau support sur quelque chose qu'on connaissait déjà. Il y a des ficelles à connaître, mais c'est pas l'objet. Et le point le plus important qui reboucle avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'envie en fait. Mmh. Quand on a envie de faire quelque chose et qu'on y met tout son cœur, bah, finalement ça avance toujours.
Bah, écoute, merci beaucoup Sébastien, c'était un plaisir de t'accueillir pour l'Entertainment Lab.
Merci beaucoup.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.